Voilà, quelques mots d'introduction pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire 95% de l'Assemblée. Donc, je me prénomme Julien, je suis actuellement à Carpentras, donc avec Bernard Rousseau. Donc je suis actuellement stagiaire à l'IBG en fin de parcours, après quelques années de stages qui vont bientôt se terminer. Donc je suis marié, j'ai 4 enfants et donc vous avez bien entendu, Nédélec, c'est un nom typiquement breton. Donc nous avons descendu de notre belle Bretagne pour découvrir le sud, et c'est avec plaisir que nous découvrons donc Carpentras mais aussi Cavaillon que nous visitons pour la première fois. Voilà pour quelques mots d'introduction. Sommaire, toujours difficile de trouver quelque chose, un texte pour une assemblée. On ne connaît pas forcément les personnes ni quoi que ce soit, mais j'ai décidé ce matin donc de vous parler.
Ce soir.
C'est un lapsus.
C'est dur à prendre, c'est dur.
Ouais. Ce soir, voilà, en cette fin d'après-midi. Donc de parler des effets de la grâce et des effets bénéfiques. De toute façon, je ne vois pas quel effet négatif il y aurait à la grâce. Et pour cela, je vous propose de partir d'un texte donc, qui se trouve dans Tite, au chapitre 3. Et nous lirons les 8 premiers versets. Donc Tite, petite épître qui se trouve après 1 et 2 Timothée, il y a 3 chapitres. Donc Paul qui écrit cette lettre à un dénommé Tite, qui lui donne quelques conseils et recommandations qui sont aussi très instructifs pour nous encore de nos jours, et qui nous rappellent combien Dieu désire nous transformer et qui nous donne aussi les moyens de opérer cette transformation. Voici ce que Paul dit donc à Tite. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. On ne va pas forcément analyser le texte dans l'ordre chronologique des versets. On va commencer par le verset 3, et en conclusion, on prendra les versets 1 et 2. Stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, odieux et détestant les uns les autres. On peut se dire que Paul y va un petit peu fort sur le descriptif, mais après tout, il ne fait que décrire ce que sont les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Et on voit qu'il n'est pas dans la condamnation, il y a l'emploi du « nous » qui montre que Paul s'inclut dans ce qu'était, ce qu'il a été et ce qu'il n'est plus maintenant. On voit que les verbes sont aussi au passé. « Nous étions autrefois », c'est du passé. Mais force est de constater que tant que l'on ne rencontre pas Dieu, et Christ, on ne se rend pas compte que nous avons en nous, ou que nous sommes, hein, ces caractéristiques. Des êtres rebelles, stupides, égarés, esclaves, et ainsi de suite. On pense être maître de nos vies, on pense être libre, alors que c'est le contraire. On est égaré allant sur des chemins personnels, alors que Dieu nous trace tout un chemin lorsque nous le connaissons. On est rempli de méchanceté et d'envie, ce qui est aussi la définition de la convoitise. On est odieux, détestant les autres. Alors le vocabulaire est peut-être effectivement choquant, mais il faut le prendre dans sa globalité. Et si chacun d'entre nous, on ne possède pas toutes ces, alors je mets des guillemets, hein, ces qualités que Paul décrit, c'est ainsi que l'homme est, c'est ainsi que l'homme agit sans Dieu. Parce que si l'on vit sans Dieu, nous sommes de facto notre propre Dieu et tournés vers nous-mêmes et nos propres intérêts. Et quand on lit cette description, effectivement, personne, je pense, ne souhaite être avoir ces caractéristiques qui servent de définition. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, lorsqu'on lit des livres, chaque fois on attend le moment où tout va basculer, en général c'est par ce petit mot. Et là aussi il y a un mais un mais qui nous fait basculer dans de bonnes choses. Verset 4, hein, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés. Il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers les bains de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Ce mais est important. Si le constat que Paul fait est peu reluisant initialement au verset 3, Paul nous offre une solution pour ne pas rester dans cet état dépréciatif. Le verset 4, effectivement, nous montre quelles sont les caractéristiques de Dieu, lesquelles il veut mettre en place pour nous, pour que nous ne soyons plus dans l'état que Paul décrit au verset 3. Si au verset 3, l'homme est acteur, nous voyons que au verset 4, c'est Dieu qui est l'acteur et l'homme est le récipiendaire. L'homme ne pouvant plus rien faire par et pour lui-même, Dieu a pris l'initiative d'agir pour lui. Et nous ne pouvons être que reconnaissants que Dieu fasse cela. Parce que si c'était à l'homme de trouver la solution, on serait encore à l'heure d'aujourd'hui en train de chercher comment faire pour nous approcher de Dieu. Dans sa grâce, dans son amour, il a tout planifié, tout préparé pour que nous puissions nous tourner vers lui qui existe de toute éternité. Dieu, dans sa grâce, sauve ceux qui croient en lui. Non pas en vertu de quelque justice, mais en vertu de sa miséricorde, c'est le texte qui nous le dit. La définition de la miséricorde, générosité entraînant l'indulgence pour un coupable, la miséricorde. Dieu est pleinement miséricordieux. Nous étions tous coupables, mais par miséricorde, nous avons le moyen d'être sauvés. Romains 3, versets 21-24 nous disent ceci. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On aura noté la cohérence, hein, ayant les mêmes auteurs, au moins pas de contradiction. Paul, ce qu'il dit à Tite, le dit aussi aux Romains et inversement. Pas de contradiction là-dessus, et heureusement. On voit, hein, bonté, amour, miséricorde, compassion, ça sonne quand même mieux à nos oreilles que rebelle, égaré, esclave, odieux, détestant les autres, méchanceté. Hein, le vocabulaire est nettement plus positif. Ça nous montre aussi quel est le bon chemin, la bonne voie à suivre. Paul détaille ensuite les moyens par lesquels cela peut être obtenu. Deux éléments, la régénération au travers du bain qui purifie de la saleté du péché et le renouvellement du Saint-Esprit. On a ici, je pense, une allusion directe au baptême, baptême par immersion totale, tel que nous le connaissons, qui est une représentation aussi du passage de la mort à la vie, tout comme Christ est mort et ressuscité. Heureusement, on ne reste pas autant de temps dans l'eau, mais symboliquement, nous sommes immergés et nous ressortons tel quelqu'un de transformé. Alors, comprenez-moi bien, hein, ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est une représentation publique, une expression publique de ce que Christ a fait pour nous. Mais il est important, effectivement, lorsque nous en avons l'occasion, de faire ce témoignage publiquement pour que d'autres puissent voir la gloire de Dieu en nous pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. Christ est mort pour nos péchés, mais il est surtout ressuscité. D'autres textes nous le disent, hein. La mort n'a pas eu d'emprise sur lui, et c'est aussi en quoi nous croyons. Et de cette compréhension, de cet acte de bonté, d'amour, de miséricorde, découle en nous d'autres éléments. Et non seulement Dieu nous sauve, Dieu veut nous sauver, mais il veut aussi, et Paul continue là-dedans, nous déclarer justes et faire de nous des héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Si jusqu'à présent je n'ai pas prononcé le mot foi, c'est parce que la démonstration que Paul fait met l'accent sur ce que Dieu fait et non pas sur ce que l'homme peut faire. Mais la foi intervient forcément à un moment donné pour vivre ces promesses qui ne sont pas toujours faciles à saisir et à comprendre. Effectivement, je pense que si on va dans la rue et qu'on interpelle le premier que l'on voit en disant « Dieu veut te déclarer juste, Dieu veut faire de toi un héritier de la vie éternelle », je pense qu'il ne saisirait pas ce qu'on lui dit. Surtout que être déclaré juste alors que nous sommes pécheurs, être héritier alors que nous ne méritions rien, et cette notion de vie éternelle qui est troublante, nous qui sommes des êtres mortels. Mais la foi, et Paul l'a dit aussi, hein, avec l'aide et le renouvellement de du Saint-Esprit, nous aide à saisir cela, et à saisir cela selon nos besoins, et selon la compréhension dont nous avons besoin à l'instant T. Il y a parfois cette frustration ou ce désir de vouloir tout comprendre, de vouloir saisir l'ensemble de la parole. Et je crois que c'est un rêve qui est vain, qu'il ne faut pas aller dans cette direction, mais simplement avec humilité aussi, désirer saisir ce que Dieu a à nous enseigner chaque jour, chaque instant, mais selon notre capacité et aussi, encore une fois, pour sa gloire. Si je cherche à vouloir tout comprendre de la parole, je me fais de manière consciente ou inconsciente aussi, peut-être l'égal de Dieu, à vouloir déceler des choses que d'autres n'auraient pas décelées. Quelle est ma motivation? Elle n'est pas peut-être toujours bonne. Mais au travers de ces thèmes, de ces termes, déclarés justes, devenus héritier conformément à l'espérance de la vie éternelle, nous avons déjà matière à réflexion, matière à voir aussi tout ce que Dieu désire de bon pour nous. C'est l'une aussi des caractéristiques de ce qu'un chrétien peut vivre et de ce qu'un chrétien devrait vivre. Et j'espère que c'est le cas pour chacun ici. C'est une relation personnelle avec Dieu. On a tout le reste de notre vie pour, je l'ai dit, tenter de saisir et de comprendre, de le connaître, de découvrir, et de surtout de développer une relation personnelle et intime avec Dieu. Nul n'est appelé à tout comprendre et à tout saisir immédiatement. Quel que soit le domaine, nous avons besoin d'apprendre. On apprend à marcher, on apprend à lire, on apprend à compter, on apprend à faire du vélo. On apprend. Rien n'est inné. On a besoin d'apprendre. Et il n'y a pas de raison que pour notre relation et notre compréhension avec Dieu, ce soit différent. Lorsqu'on apprend à lire, lorsqu'on apprend à compter, on a des manuels scolaires qui nous l'apprennent. Lorsque l'on veut apprendre à connaître Dieu, on a un manuel qui nous apprend à le connaître. La parole, la Bible. Ne nous privons pas de la lire pour rencontrer ce Seigneur et ce Sauveur qui veut, qui nous déclare juste, qui veut que nous soyons héritiers, qui veut encore tant de choses. Là, je vous ai lu 8 versets sur, je ne sais même pas combien il y en a dans l'ensemble de la Bible, mais c'est une goutte d'eau. C'est même plus petit qu'une goutte d'eau, mais qui nous montre déjà énormément de choses. Alors, dans l'ensemble de la parole, c'est aussi énorme ce que Dieu veut et ce que Dieu nous encourage à faire. Je le disais, on n'a pas besoin de tout comprendre pour commencer à entamer une relation avec Dieu. On n'a pas besoin de se dire « je ne suis pas assez parfait » ou « j'ai besoin de régler ceci avant de m'approcher de Dieu » ou « je ne me sens pas digne ». Je pense qu'il nous faut aussi combattre ce genre d'attitude parce que si on attend le moment parfait pour nous approcher de Dieu, là aussi je crois qu'on peut attendre longtemps. Et au contraire, Dieu désire quelqu'un qui s'approche avec un cœur sincère, en disant « oui, je ne saisis pas tout, je ne comprends pas tout, j'ai des choses à régler dans ma vie, mais… » Et là, le « mais » fait basculer aussi dans une nouvelle compréhension, une nouvelle vie, « mais je désire m'approcher de toi. Seigneur, viens à ma rencontre pour que je puisse être déclaré juste. Je veux vivre cela, je ne le saisis pas, je ne le comprends pas, mais je m'approche de toi. » Et dans ce cas-là, Dieu, je vous l'assure, je n'ai pas le temps de donner mon témoignage, mais Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu fait des choses dans la simplicité aussi. Il touche les cœurs de manière simple, sincère, et il nous entraîne dans un processus de transformation. Pour certains, et ça n'a pas été mon cas, et c'est pour ça que pendant un moment, je me suis demandé, mais est-ce que Dieu m'a vraiment touché ? Quand on entend des témoignages de gens qui ont des vies transformées, qui avaient des vies extrêmement dissolues, et en un claquement de doigts, ils ont été touchés par la grâce, transformés, ils ont arrêté tout ce qu'ils avaient fait de mal, de mauvais, qui se sont détournés. Et moi, j'ai pas eu cette vie-là, et je peux que remercier le Seigneur de ne pas avoir une vie non plus extrêmement compliquée. Et des fois, oui, quand l'heure du choix était à faire, je me dis, mais est-ce que je connais le Seigneur ? Oui, le Seigneur se révèle, il n'y a pas besoin d'avoir ou d'attendre quelque chose d'extraordinaire pour saisir ce qu'il a à nous apprendre. Déclarer juste, devenir héritier, on voit que le vocabulaire là aussi résonne mieux plutôt que ce qu'on a lu au verset 3. Et maintenant, et vous allez comprendre pourquoi, je prends les versets 1 et 2 dans maintenant et pas au tout début. Il y avait 7 qualités, ou 7 défauts, hein. Rebelle, égaré, stupide, esclave, méchant, envieux, odieux et détestant les uns les autres, qui décrit l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et dans les deux premiers versets, Paul commence par « rappelle-leur » et il décrit 7 qualités ou caractéristiques de personnes ayant été transformées. Rappelle-leur de se soumettre premièrement aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant et plein de douceur envers tous les hommes. Rappelle-leur. On peut peut-être trouver ça surprenant que Paul rabâche encore la même chose. Si on lit d'autres épîtres, on voit à peu près le même enseignement. Alors pour ceux qui ont des enfants, vous comprendrez bien qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on dit les choses une fois qu'elles sont acquises. Pour nous, c'est pareil. On n'a pas à s'offusquer que Paul rabâche la même chose. Quand bien même nous le savons, nous ne l'appliquons pas toujours. Mais dans sa grâce, Dieu nous permet aussi de mûrir, de comprendre, de saisir en fonction de nos époques de vie. Et Dieu nous permet d'appliquer ce qui est aussi enseigné au travers de sa parole. La nature de l'homme est ainsi faite. On entend ce que l'on veut entendre. Pour le reste, nous sommes capables d'en faire abstraction sans aucun problème, pour différentes raisons. Mais je crois que si on veut être honnête, si je veux être honnête, toutes les raisons que j'ai pu trouver jusqu'à présent n'étaient pas des raisons valables. Sept qualités qui sont attendues et pour lesquelles nous sommes appelés à les mettre en pratique. La première, soumission aux autorités. Ah, on pourrait dire, on est retombé dans un vocabulaire à connotation négative, se soumettre à des autorités. Difficile parfois de mettre en pratique. Très facile de critiquer ceux qui sont au-dessus de nous, que ce soit au travail ou dans d'autres sphères. On a un esprit critique, mais pas dans le bon sens. On se dit, ils sont bons à rien. Paul nous incite au respect, à la soumission de ses autorités. On minimise parfois aussi notre attitude vis-à-vis des dites autorités. D'autres textes nous disent de prier même pour nos autorités. Et j'avoue, c'est un exercice qui est difficile. Alors, ce n'est pas la première chose à laquelle je pense quand je me lève, de prier pour mes autorités. Mais je n'ai pas forcément ça en tête. Et pourtant, c'est aussi un enseignement biblique. Sans prendre position, sans prendre parti, prier pour nos autorités qui ont... Alors, s'il y a bien un poste pour lequel je n'ai aucune inspiration, c'est celui, effectivement, d'avoir une autorité pour l'ensemble d'un pays ou d'un État. C'est compliqué. Mais parce que c'est compliqué, nous sommes appelés à prier pour eux. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et pourtant, nous devons prier pour nos autorités. Et au-delà même de prier et de se soumettre aux autorités, Paul va plus loin, de leur obéir. Est-ce que ça veut dire obéir à tout sans réfléchir? Non. Mais ça veut dire aussi agir avec discernement et être conscient qu'il y a des choses aussi dans l'État que nous devons respecter. Paul, ensuite, continue. Être prêt pour toute œuvre bonne. Là aussi, est-ce que, à chaque instant, je me dis, est-ce que je peux faire une œuvre bonne? Ou est-ce que je vis simplement ma vie sans me dire de quoi a besoin un tel ou un tel? Est-ce que je suis naturellement tourné vers les autres? La réponse est non. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à être intrigué que Paul répète ce genre de choses. Quand bien même nous sommes sauvés et déclarés justes, ce combat avec notre vieille nature est un combat. Et chaque matin, j'ai la possibilité de me réveiller avec ma nouvelle nature ou de me réveiller avec mon ancienne nature. Nous devons aussi avoir conscience de cela. Être sauvé, Reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est quelque chose qui se fait une fois, mais qui ensuite doit être renouvelé chaque jour. Ce n'est pas « je reconnais que Christ est Seigneur et Sauveur » et après je vis toute la vie que je veux, comme je veux, en disant « mais je l'ai reconnu, pas de souci ». Non, la parole va au-delà et nous appelle justement à mettre notre vie en ordre, en pratique, en cohérence. Et où puiser tout cela ? Dans la parole. Et si je ne la lis pas, forcément je ne peux pas savoir ce que Dieu attend de moi. Je ne peux pas savoir que je dois être justement prêt pour toute œuvre bonne. Je ne peux pas savoir que je ne dois pas calomnier personne. Si, parce que ça, on l'apprend un petit peu même dans le cercle non chrétien, on va dire. Hein. On apprend aux enfants à ne pas mentir, à ne pas dire de faux témoignages, à dire la vérité. Il y a des choses qu'on retrouve un petit peu dans le monde extérieur, heureusement. Être pacifique. Là, c'est parfois un peu plus dur. Ne pas s'emporter. Hein. Être doux. Est-ce que je suis toujours là-dedans ? Alors, vous ne me connaissez pas. Peut-être que vous dites, oui, il a l'air.
On fait un sondage.
Non, mais il n'y a pas besoin de sondage. Non, malheureusement, je ne peux que dire que je ne suis pas tout le temps pacifique. Mais je veux tendre vers cela. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de tout comprendre et de tout saisir. Nous sommes appelés, donc, nous sommes dans une formation continue. On doit tendre vers. On ne l'atteindra jamais, mais on ne doit pas se dire, c'est pas parce que c'est inatteignable que je ne le fais pas. On doit tendre vers toutes ces caractéristiques et plein d'autres. Mais pas simplement le faire pour le faire, mais en compréhension de la parole et par amour pour Dieu, et parce que c'est aussi enseigné. Être conciliant. Être plein de douceur. Là aussi, alors si je vous ai dit que je n'étais pas pacifique, je ne peux pas vous dire que je suis plein de douceur. Ce serait incohérent. Mais je veux tendre vers cela. Parce qu'en plus, si c'est enseigné, ça veut dire que c'est réalisable. Paul nous demande de tendre vers ces choses. C'est que c'est réalisable. Non pas par nos propres forces, mais en ayant conscience que nous avons besoin, et Paul le dit aussi, du renouvellement de l'esprit pour pouvoir appliquer cela. Parce qu'en plus, Dieu n'est pas pingre ni avare, hein, il a déversé le renouvellement du Saint-Esprit avec abondance, pour que nous puissions être remplis, et que ça puisse aussi remplir les autres. Le but n'est pas simplement d'être rempli pour nous-mêmes, mais de pouvoir transmettre ensuite le reste. Et ce sera ma conclusion, le verset 8. « Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » La transmission. Rappelle-leur, cette parole est certaine, rappelle-leur d'appliquer ce que j'ai enseigné. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et je vous le disais en introduction, le vocabulaire nous incite à choisir une voie. Est-ce que je veux rester stupide, rebelle, égaré, esclave, méchant ? Envieux, odieux et détester les autres ? Ou est-ce que je veux être soumis, obéissant, prêt pour les bonnes œuvres ? Ne pas calomnier, être pacifique, être conciliant et plein de douceur ? On a toujours le choix. On a toujours le choix. Et ce n'est pas parce que on est parfois dans le vocabulaire à connotation négative que c'est une finalité. De nouveau, nous pouvons revenir à la croix avec un cœur sincère et contrit en disant au Seigneur, pardon, on l'a chanté tout à l'heure. Hein, et je crois que les paroles résument bien une partie de ce que j'ai dit aussi et de ce que Paul dit surtout. On a besoin sans cesse de demander pardon. Et non pas de manière à presque nous flageller, tellement nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais demander pardon d'une manière sincère, en ayant conscience que l'on peut être transformé, que l'on veut être transformé, et que Dieu désire aussi cela. Et que chaque jour, nous pouvons nous présenter devant lui, par grâce et par compassion aussi. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Le matin, nous pouvons chanter sa bonté et le soir, sa fidélité. Que nous puissions vraiment saisir cela. Saisir que ses paroles sont certaines. Que nous devons nous appliquer à les mettre en pratique. Et que cela est aussi bon et utile aux hommes. Et parce que c'est bon et utile aux hommes, c'est aussi quelque chose qui est agréable à Dieu. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci parce que celle-ci est riche en enseignements. Je te prie qu'elle puisse faire son œuvre dans ma vie, dans nos vies. Que nous puissions chercher à la mettre en pratique pour que ta gloire resplendisse dans nos vies, mais aussi qu'elle puisse resplendir dans ceux qui ne te connaissent pas. Que nous puissions être des exemples, si c'est un bien grand mot, de vie transformée. Et que nous puissions, là où nous sommes, là où tu nous as placés, être des lumières. Non pas pour notre propre gloire, mais pour la tienne, Seigneur. Et que nous puissions développer et tendre vers le développement de ces caractéristiques de patience, de douceur, et d'être prêt pour les bonnes œuvres, de respecter nos autorités, de prier pour elles. Toutes ces choses, Seigneur, qui me montrent aussi que je ne le fais pas de manière régulière. Mais je te remercie aussi parce que même si elles ne sont pas faites de manière régulière, tu me permets de les saisir aujourd'hui. Et je te remercie parce que chaque jour est une opportunité de nous approcher de toi. Chaque jour, nous pouvons nous lever avec ce désir de te servir. Et je te prie pour tous ceux qui auraient des difficultés avec leur ancienne nature, que tu te révèles encore un peu plus à eux, que nous puissions les épauler, Seigneur, et être aussi conscients du privilège que nous avons de pouvoir te prier, de pouvoir te louer, t'adorer. Nous voulons saisir cela, Seigneur, et le faire dans la joie de te servir. Amen.